La première, podcast.
13h15, 14h.
Le grand oral RTBF le soir.
Sur la première.
Jacques Crémers.
Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans le grand oral, l'interview d'une personnalité par trois journalistes des rédactions de la RTBF et du soir. Et aujourd'hui, nous recevons le vice-président et ministre des gouvernements wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bonjour Jean-Claude Marcourt.
Bonjour.
Jean-Claude Marcourt, qui est membre de la Fédération liégeoise du Parti Socialiste, Liège, d'où est partie l'affaire Publifin, une intercommunale dont l'opacité et les rémunérations interrogent l'éthique et la transparence politique. Ce sera avec vous, Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef au Journal Le Soir.
Oui, on a vraiment beaucoup de questions à poser à M. Marcourt et beaucoup de demandes d'éclaircissement. Et parce que nous, on n'y voit pas toujours très clair dans cet ensemble Netis Publifin Extecteo. Et on va pouvoir demander à M. Marcourt s'il peut nous guider dans les méandres de cet outil qui est censé être un outil public, privé, on ne sait plus trop ce qu'on doit dire.
Et méandres et remous, puisque les multiples remous provoqués par l'affaire Publifin ébranlent aussi le gouvernement wallon. Démission, accélération des réformes de bonne gouvernance, des intercommunales. Est-ce vraiment la fin d'une époque? Ce sera avec vous, Jean-Pierre Jacquemin, directeur de l'information à la RTBF.
Oui, Jean-Claude Marcourt, ministre de l'économie, pourra aussi nous dire si la Wallonie se relève. Mais on restera quand même sur Liège, où vous êtes un des hommes forts de la fédération liégeoise du PS, donc bien au courant de ce qui a pu se produire et de ce qui pourra se passer à l'avenir. Et puis, les questions aussi, est-ce que vous êtes de ceux qui pensaient que maintenant il faut avoir un Netis wallon et bruxellois, comme l'ont dit Paul Magnette ou Benoît Lutjen par le passé? Et d'autres questions certainement viendront en cours d'interview.
Mais il n'y a pas que la gouvernance en Wallonie qui pose question actuellement. Il y a aussi Donald Trump et les mesures protectionnistes qu'il annonce. Elles pourraient entraîner jusqu'à 5000 pertes d'emplois en Belgique. Vous nous direz ce que vous en pensez, Jean-Claude Marcourt, ministre wallon de l'économie, comme vient de le dire Jean-Pierre. Enfin, vos commentaires pour terminer sur le duel de la primaire de la gauche en France. Benoît Hamon face à Manuel Valls. C'est parti pour 40 minutes. Nous sommes en radio sur la première, en télévision sur la 3 et sur Internet.
Jusqu'à 14h,
le grand oral RTBF le soir sur la première.
Jean-Claude Marcourt, on ne vous a pas beaucoup entendu ces derniers jours. De quelle humeur êtes-vous?
Je suis extrêmement triste. Je suis triste de constater que malgré beaucoup de réformes, et je dirais que la Wallonie est en pointe sur beaucoup de réformes, il y a encore eu une faille, et que cette faille vienne de ma région m'attriste encore plus. Et deux, je suis triste pour les 3000 familles qui vivent de Netis et de l'ensemble, parce qu'aujourd'hui l'opprobre, elle vise tout le monde. Et il est quasi difficile, voire impossible, de défendre la structure tellement l'onde de choc est importante. Et pourtant, ces hommes et ces femmes qui travaillent au quotidien, que ce soit pour l'électricité, le gaz, les télécoms ou la presse, je pense que toutes ces personnes le font avec dévouement, tout comme l'immense majorité de nos mandataires publics. Et la décision prise hier par le gouvernement de véritablement parachever les choses, et moi j'ai insisté non seulement sur les règles, mais sur la clarté des règles. Parce que les textes juridiques, j'ai dans le passé fait quelques études de droit, qui sont complexes, permettent toujours des interprétations multiples. Et c'est une fois de plus une interprétation dans quelque chose qui paraissait hors de propos. Personne n'imagine donner des rémunérations mensuelles pour 4 réunions par an. Enfin, je veux dire, ça heurte le sens commun. Eh bien, malgré tout, ça a été le cas, et ça jette aujourd'hui l'opprobre sur toutes les structures publiques. Et je crois que le travail qui va être fait par le gouvernement, et Pierre-Yves Dermagne va s'y atteler dès aujourd'hui, c'est véritablement de lancer une opération qui n'est pas de jeter l'opprobre, qui est simplement de dire il faut faire la clarté. Quand on a délibéré des rémunérations dans les structures publiques, j'avais proposé qu'on renonce, comme c'est le cas dans les pays anglo-saxons, comme c'est le cas dans les pays scandinaves, sur la discrétion. Il y avait cet équilibre entre la protection de vie privée et la publicité des rémunérations. Je crois qu'aujourd'hui, l'ère du temps, je sais que ça a été reproché sur le sujet, est à la transparence totale. Ça ne veut pas dire que l'ère du temps permettait ou permet de faire des actes illégaux. Ça a toujours été hors de propos. Mais il y a une évolution des choses et je crois qu'aujourd'hui, la transparence doit permettre à tous ceux qui s'occupent de la chose publique de le faire en démontrant qu'ils ne font pas par cupidité, mais qu'ils le font dans l'intérêt de la structure.
Mais vous parlez donc de choc, et pourtant à Liège, on a vu hier le président du collège provincial, André Gilles, parler de simple brouhaha. On a un peu le sentiment, l'impression que tout le monde n'a pas pris la mesure de la gravité des faits.
Écoutez, si vous lisez la délibération du conseil provincial, elle pose deux questions en convoquant une assemblée générale, et ils ont le pouvoir de la convoquer puisqu'ils sont actionnaires majoritaires. Un, quasi, pour faire bref, stop ou encore sur l'intercommunale, révocation ou démission des administrateurs. Si vous trouvez que ça, ce n'est pas quelque chose, un geste fort, c'est de dire, on prend la mesure du fait qu'il y a un vrai problème.
Il n'y a pas de résistance liégeoise, donc.
Nous avons le lendemain du jour où cette affaire inacceptable a été mise à nu, nous avons supprimé les comités de secteur. Hier, le Conseil provincial convoque une assemblée générale prévoyant la démission ou la révocation des administrateurs et l'examen sur l'avenir de l'intercommunale. Si vous ne pensez pas qu'il n'y a pas là une volonté d'aller de l'avant, c'est clair. Et moi, j'ai dit depuis des années qu'en réalité, un groupe comme Nethys, qui est un groupe qui est d'une part dans un régime régulé, le gaz et l'électricité, d'autre part dans un régime commercial, la structure intercommunale n'était plus adaptée à un groupe de cette taille. Et je plaide depuis longtemps, et je crois qu'aujourd'hui, et c'est la déclaration de Benoît Ludgen hier sur vos antennes, et je crois que Paul Magnette dit la même chose, il faut transformer la structure juridique, non pas pour éviter les règles de gouvernance qui viennent d'être arrêtées par le Conseil des ministres wallon, mais bien pour dire, voilà ce qu'on peut faire. Alors ça doit être une entreprise sui generis, de droit public, clarifier les choses, mais vraiment lui permettre d'avancer, ou alors, on dit, on démantèle, mais alors il faudra assumer la disparition d'un certain nombre d'emplois.
Je reviens sur les propos que vous avez tenus tout au début. Est-ce que vous êtes triste, Jean-Claude Marcourt, que l'on se soit moqué de vous ?
Non.
Par là, vous avez dit, et vous nous le répétez ici, il y a quelque temps, qu'il ne fallait pas les structures qui ont été mises en place, et elles ont été mises en place. On s'est moqué de vous.
Alors,
si je vous suis dans les mots que vous dites.
Je ne suis pas dans ce schéma-là de la polémique. La tristesse que j'ai me fait prendre encore plus conscience de la gravité de la situation. C'est nous tous, c'est vous, c'est nous qui sommes aujourd'hui. Si on prend l'enquête qui a été publiée, c'est tout le monde qui est aujourd'hui concerné par cette décrédibilité des choses. Et je crois que j'ai toujours dit que je m'occupais essentiellement de la région, que c'était mon point de vue. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai jamais demander une fonction scabinale ou d'échevin, donc, ou une fonction de bourgmestre, parce que dans mon éthique personnelle, j'ai toujours dit, il faut faire des choix et ces choix doivent être clairs. Et il faut être clair par rapport à l'électeur.
Pourtant, on vous voit parmi les ténors à Liège. Oui. On parle des cinq de Liège. Certains disent même les cinq Walton maintenant.
Oui. Hein,
vous connaissez cette expression. Comment ça se fait que vous n'avez pas vu tout ça?
Parce que vous croyez que tous les jours, je m'occupe de ce que chacun fait dans chacune des structures, et le fait de faire des comités de secteur, comme cela existe dans d'autres structures, n'est pas en soi quelque chose de répréhensible. C'est le fait de ne pas travailler en proportion de la rémunération.
Vous êtes senti trahi par vos amis ?
Je me suis senti blessé.
Pourquoi pas trahir, en fait? Parce que vous dites...
Que trahir, c'est été manquer à quelque chose qu'on m'aurait dit. Et on ne me l'a jamais dit.
Non, mais une espèce de promesse de comportement qui est liée,
vrai,
notamment pour les socialistes, à des comportements.
Par rapport à certains qui ont travaillé, j'ai reçu des mails qui ont dit... Certains ont demandé des réunions supplémentaires. Certains ont fait des réunions en dehors des réunions de comités de secteur. Tout cela mérite une réalité. Mais aujourd'hui, le tsunami est là. Il ne sert à rien d'essayer de dire... Un tel a bien fait, l'autre n'a pas bien fait.
Remontons un stade plus haut. On parle de M. Moreau, on parle de M. de Meyer, on parle de M. Gilles ici, qui pourrait vous avoir trahi.
Précisément, on va poursuivre sur ce thème avec un focus sur celui à qui il est demandé précisément de faire un pas de côté. Jean-Pierre vient de le citer, c'est Stéphane Moreau.
Le Grand Oral, RTBF le soir.
Et celle qui demande à Stéphane Moreau de faire un pas de côté, c'est Laurette Ankelings, ex-liégeoise, rappelons-le, chef de groupe PS à la Chambre. Stéphane Moreau qui est bourgmestre d'Anse et CEO de Nétis, deux postes entre lesquels il doit à présent choisir. Avec en toile de fond, le fonctionnement de la Fédération liégeoise du Parti Socialiste. Vos réponses, vos commentaires, c'est avec Béatrice Delvaux.
Oui, enfin je voudrais, on va arriver à Stéphane Moreau, mais c'est peut-être la proie facile entre guillemets, parce que la proie la plus exposée, même si difficile sans doute à certains. Mais j'avais quand même une question. Vous dites, bon, on ne va pas désigner l'un ou l'autre. Il y a quand même une question qui se pose. C'est que pour le moment, on a beaucoup désigné ceux qui ont touché ces rémunérations excessives sans prestations, qui n'ont rien dit. Mais bon, ils ne les ont pas inventées tout seuls. Et moi, je trouve qu'à ce stade, on doit pouvoir savoir qui, dans la structure, pour savoir quel point de la structure a fauté, a permis à ces rémunérations d'être distribuées et n'a pas joué son rôle de contrôle. Pour beaucoup, je ne sais pas si vous avez une idée, moi j'ai le sentiment que ça part de conseil d'administration de Publifin, mais du président de Publifin. C'est M. Gilles qui n'a pas rempli sa mission, qu'il parle de brouhaha et qu'il ne se sente pas concerné par ce qui s'est passé à l'intérieur de son conseil.
Je dirais que ça dépend si on, de nouveau, on part sur une notion éthique ou juridique. Juridiquement, vous trompez.
Mais je pense que éthique, on est sur l'éthique alors, aussi beaucoup.
Ah oui, mais alors, on sort des règles. Que doit-on faire? Écoutez, je pense qu'il y a aujourd'hui, et ça c'est une volonté claire, de la part de M. Gilles, de dire « je vais quitter la présidence de Publifin », un peu comme d'autres l'ont
fait.
Il le
fera, parce que ce n'est pas clair qu'il va aller le faire. Il le fera, il va quitter.
Je pense que non seulement c'est clair, il l'a dit, Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a dit que ce sera une démission des administrateurs. Et les administrateurs socialistes ont dit qu'ils démissionneraient tous et que ceux qui ne démissionneraient pas seraient révoqués. Okay. Donc, je veux dire, c'est pas rien. C'est pas... Et vous dites que c'est de l'éthique, mais on donne à cet homme une responsabilité qui dépasse son cadre légal. C'est pas lui qui a commis les choses. Deux, je voudrais dire très simplement, aujourd'hui, nous allons nous tourner vers l'avenir. Ça n'exclut pas qu'on fasse une analyse de comment les choses se sont passées. C'est d'ailleurs, à mon sens, dans le rapport qui va être fait.
Vous êtes pour une commission d'enquête ?
Ça, c'est le rôle du Parlement. Je suis ministre, je ne suis pas ministre des pouvoirs locaux, je ne suis pas ministre-président.
Vous n'êtes pas pour ?
Je ne suis pas contre. Mais c'est de la responsabilité du Parlement qui doit faire l'équilibre entre est-ce utile d'avoir une commission d'enquête, est-ce utile d'en parler en commission. Je veux dire, il n'y a rien qui, aujourd'hui, est inaccessible par une... En dehors d'une commission d'enquête.
Difficilement accessible parce que monsieur Alain Le Légevin a expliqué combien c'était compliqué d'avoir des informations et un des administrateurs écolo, monsieur Audi, dit que pour avoir des informations même sur des tisses, c'est extrêmement compliqué.
Parce que quelqu'un vous dit quelque chose qui tape dans... Et il faut remercier celui qui a mis à jour cet élément. Mais en quoi était-ce compliqué?
Je ne sais pas, parce que les administrateurs des autres couleurs politiques ont été moins curieux, ou alors ils étaient plus satisfaits de ce qu'on leur donnait.
Il n'était pas d'ailleurs administrateur, il a été comme membre de l'Assemblée Générale. Donc, comme tout conseiller communal peut le faire dans tout intercommunal.
Ils ne l'ont pas fait.
Ah, donc, ça, vous savez, dans beaucoup de structures, on n'y a pas. Les parlementaires ont le droit d'aller à la Cour des comptes, combien se déplacent pour faire ce travail. Donc, essayons quand même de ramener les choses à leur stricte proportion. Et quand vous parlez de Stéphane Moreau, très simplement... Il y avait une règle qui disait que les directeurs généraux d'intercommunal ou les directeurs généraux de la fonction publique devaient faire un choix. Il n'était pas dans cette structure puisqu'il était administrateur délégué, sauf de ma part, du groupe Nétis, société de droit privé. Et nous disons simplement, ce qui n'est pas possible d'être fait dans l'holding de tête ne peut pas être possible dans les filiales.
Alors, j'ai une question à vous poser, parce qu'indépendamment de l'aspect ou éthique ou de la position de M. Moreau, qui par ailleurs est un élu socialiste, qui comme élu socialiste n'a pas respecté les consignes de son parti sur la publication de son salaire, il aurait pu le faire dans cette ligne-là et pas dans se cacher derrière la notion de protection de vie privée, mais passons là-dessus. Ce qui est un peu reproché, c'est surtout au-delà de Moreau, c'est la structure, c'est l'opacité de la structure Nétis Publifin. Est-ce que vous, par exemple, vous étiez au courant? Est-ce que vous trouvez normal que 300 millions de revenus de la partie non régulée du bloc Nétis Publifin servent à éponger les pertes des activités privées qui se trouvent dans Nétis? Ça se trouvait dans l'Écho vendredi, ça se trouve dans le Soir
non,
samedi.
Ça se trouvait, Philippe Lawson, chaque année...
Qui est le journaliste à l'Écho. Oui.
Le publie, donc vous dire, c'est tellement opaque que chaque année, il mentionnait les pertes du secteur télécom et les gains de la structure.
Et donc, est-ce que vous trouvez que c'est normal
que vous donnez comme étant une découverte, tout le monde le sait depuis des années. Le choix qui a été fait, et je rappelle, si, pour répondre aussi à ce que certains disent, il faudrait que ce soit plus bruxellois et plus wallon. S'il y a 10 ans, lorsque les câblots du secteur mixte ont mis en vente, il y a eu la première proposition qui avait été faite, c'est de dire, plutôt que de mettre en vente, on consolide le tout et on fait une vraie structure. Le choix des actionnaires de l'époque, actionnaires publics, a été de vendre. Et il y a eu 2 concurrents, Tecteo d'un côté, Telenet de l'autre. Tecteo a payé plus cher et a obtenu cela. Aujourd'hui, moi je vous dis, je suis évidemment preneur que l'on puisse dire, si des gens viennent de l'extérieur pour investir et faire un vrai holding wallon, je suis preneur. Ça s'inscrira mieux dans une entreprise publique que dans une intercommunale. Je crois que le modèle intercommunal pour Nethys ne fonctionne pas.
Vous savez ce qui est dit sur le système, entre guillemets, qui est défini comme le système Moreau, à tort ou à raison, mais en tout cas c'est ce qui est mis derrière, c'est de dire, au fond, Monsieur Moreau, avec des adjoints à lui, Monsieur Paul Hesse, qui est son financier, ont trouvé une manière de développer une activité privée à partir d'une activité publique et en utilisant des fonds publics pour construire un groupe dont finalement ils sont seuls à avoir réellement la maîtrise et, certains ajoutent, pour obtenir un peu l'assentiment du monde public et des mandataires publics, on leur donnait des tantièmes un peu sympathiques pour qu'ils laissent faire. C'est ce qu'on a appelé un système. Est-ce que vous trouvez que là-dessus, on se trompe et que c'est une grave erreur de dire ça?
Alors moi, je retiens simplement qu'il y a un peu moins d'une trentaine d'années, on parlait de nébuleuse Kohl's à Liège. Aujourd'hui, on parle de nébuleuse Moreau, comme si il était impossible de comprendre. Moi, j'ai vu les déclarations de Pierre Meyers, ancien patron de CMI, ancien directeur financier du groupe Usinor de Cockerill, de Philippe Delaunoy, qui était aussi dans Cockerill, qui a de fonctions qui sont reconnus tous les deux comme de très grands professionnels, qui ont dit tous les deux, écoutez, cette structure, elle fonctionne. Elle n'est peut-être pas très transparente et elle doit être améliorée. C'est d'ailleurs pour ça que je vous propose, très clairement, de dire tant à Benoît Lutgène qu'à Paul Magnette, je vous tends la main, construisons une entreprise sui generis, de droit public sui generis, et faisons du pôle Nethys, qui est une réussite économique, puisque c'est profitable. La valeur de Nethys est passée de 500 millions il y a 10 ans à 3 milliards aujourd'hui.
Tout en sachant que le pôle gaz-électricité éponge encore les problèmes, les pertes de Nethys.
Il paye ce qu'on a donné aux anciens associés du mix, c'est en réalité l'emprunt. L'emprunt sera totalement remboursé l'année prochaine. Lorsque Belgacom a lancé son activité télé, on le sait, ça a été déficitaire pendant des années. Ce sont les gens, vous comme moi, qui avions des abonnements, soit de téléphonie fixe, soit mobile, qui ont payé dans leurs tarifs et épongé les choses. Ça, c'est l'investissement. Vous dites alors qu'il n'y a plus d'investissement. Et je rappelle qu'en gaz et en électricité, ce sont des choses régulées. Et donc, on ne fait pas n'importe quoi. On ne peut pas dire que l'argent qui a été utilisé aurait permis de réduire les activités.
Il n'y a pas de détournement ou d'abus d'utilisation de l'argent public.
Il y a eu un choix stratégique à plusieurs reprises sur des assemblées générales dans le passé qui ont confirmé la volonté de la structure. Et aujourd'hui, l'ensemble des communes liégeoises et la province de Liège ont un patrimoine supérieur. Et si demain des partenaires viennent venir, et moi personnellement je vous dis, à condition qu'on maintienne bien le statut public de cette structure et que l'on assure la transparence des choses et que l'on réponde aux critiques qui sont faites, parce qu'il y en a qui sont probablement justifiées, on pourrait même aller en bourse et nous correspondrions alors à ce que Fluxys et Elia font, c'est-à-dire d'être des sociétés actives dans certains secteurs régulés et pouvant se développer.
Pour finir sur ce dossier, sur ce volet en tous les cas, Jean-Claude Marcoux, on a parlé de Stéphane Moreau tout à l'heure. Est-ce qu'il reste alors à la tête de ces structures Nethys ou est-ce qu'il fait un pas de côté? S'il fait un pas de côté, lequel fait-il pour vous?
Nous avons aujourd'hui pris connaissance de la décision de Stéphane Moreau qui est aujourd'hui dans un problème de santé assez important, qu'il déciderait ce qu'il fait puisque c'est la demande qui est faite et ce sera donc avant que les règles légales ne soient modifiées, pour le 28 février au plus tard.
Et maintenant, vous trouvez que ce pas de côté, il est approprié? Vous ne l'avez pas toujours dit au début?
Je vous dis simplement que les règles changent, et que les règles changeant, il va anticiper l'application des règles.
Mais pour vous, il n'y a pas de problème moraux. Vous ne lui demandez pas de dire, retire-toi des deux, parce que finalement, tu es un peu disqualifié.
Je ne vois pas aujourd'hui de raison d'aller au-delà des règles, sauf si vous mettez à jour des faits précis, un peu comme si on jugeait par charrette aujourd'hui. Et on va mettre un certain nombre de gens dans les charrettes. Et ça, je crois, moi qui suis avocat, vous le savez, et qui suis extrêmement attaché au droit de la défense, on n'a même pas permis à cette personne, parce qu'elle est aujourd'hui en grande difficulté physique, de s'exprimer.
Et ça, enfin, il ne s'exprime jamais. Reconnaissons-le qu'il ne s'exprime jamais, qu'on l'a déjà invité et qu'il ne vient pas.
Oui, oui. Ça.
Reconnaissons qu'il ne s'exprime pas.
Alors que ce n'est pas la première fois
que
le problème qu'il se pose par rapport à son salaire est posé sur la table. Plusieurs fois, des médias l'ont invité pour qu'il s'explique. Des explications ont été demandées même au Parlement.
Vous savez, dans la vie, les gens réagissent toujours trop tard, trop faiblement, parce qu'ils pensent que les problèmes n'existent pas.
Mais parce que
j'ai été le premier...
Le terme charrette, c'est quand même...
C'est parce que vous avez cité un certain nombre, mais ça ferait bien une charrette. J'étais le premier à dire à Stéphane, et je l'ai dit publiquement dans des interviews, je pense qu'il serait préférable que tu choisisses. Je n'ai pas attendu cette affaire-ci, et je vais vous dire, moi, quand j'ai décidé de devenir ministre, eh bien, à un moment donné, j'ai dit, il faut être totalement transparent. Je suis ministre. J'exerce ma fonction de ministre, je suis très accessoirement membre du conseil communal, et si un jour il y avait des règles pour dire il faut choisir une des deux choses, je ferai mon choix, et je pense que ça, c'est quelque chose...
Mais ça veut dire que personne n'avait de capacité à faire bouger Monsieur Moreau, parce que
c'était pas illégal.
Mais oui, mais enfin, il y a aujourd'hui un parti qui est complètement dans la difficulté
parce qu'on cible ce parti, et on a raison de cibler ce parti dans la mesure où l'éthique doit être chevillé au corps des socialistes.
Alors, on va quitter Liège pour le niveau wallon où l'affaire Publifine a entraîné la démission de Paul Furlan. Décision personnelle a-t-il confié, ce que Paul Magnette a confirmé, annonçant un ensemble de mesures pour améliorer la gouvernance, réformer les intercommunales. Il annonce une révolution éthique. Est-ce vraiment le début d'une nouvelle ère? 45 jours suffiront-ils d'ailleurs? On poursuit sur ce thème avec vos réactions. Jean-Claude Marcourt, c'est avec Jean-Pierre Jacquemin.
Avec une petite précision d'abord, on a dit que André Gilles allait démissionner de Publifine ou Publifin. Est-ce que ça vaut pour Nétis? Est-ce que les mêmes personnes qui étaient dans les deux structures, si elles démissionnent pour l'une, doivent démissionner pour l'autre? Démissionner
si
pour l'autre.
Paul Furlan a démissionné de son poste de ministre, il n'a pas déposé démissionné de son poste.
Donc Monsieur Gilles peut rester à Nétis?
Parce que le problème est à Publifin. Et donc voilà, il est à Publifin. Restons-en là, on va serrer le problème de Publifin et ma proposition est très claire. Moi, je veux qu'on transforme le groupe et en faire une entreprise où simplement on n'est pas obligé d'avoir exclusivement des conseillers communaux et provinciaux, avec tout le respect que j'ai pour eux. Dans un groupe dont cette complexité-là, il faut pouvoir avoir des administrateurs indépendants, il faut pouvoir avoir des comités de nomination où les indépendants sont présents, il faut pouvoir justifier de la pertinence des investissements au regard de l'intérêt provincial.
Comment vous la voyez cette structure? Il y aurait une...
Un pôle énergie et un pôle télécom?
Écoutez, moi j'ai proposé de le faire. Je ne m'en suis pas saisi à l'époque parce que ce n'était pas ma compétence. Je crois que j'entends aujourd'hui plusieurs acteurs politiques importants dire qu'on peut le faire. Faisons-le et regardons quelle architecture il faut.
Paul Magnette aurait dit, selon certaines sources, que cette affaire-là pouvait faire sombrer le Parti socialiste en bureau directeur lundi dernier.
On n'a pas de bureau directeur, nous.
Non, le comité. Non,
comité.
Bureau de parti.
Excusez-moi, mais avec toutes les structures, je m'y perds parfois.
Non, le bureau de directeur,
ne m'en veuillez pas.
Je pense que c'est ça au CDH. Mais...
Au bureau de parti lundi.
Au bureau de parti lundi. Ouais. Est-ce que vous le confirmez d'une part et est-ce que vous avez le même sentiment?
Est-ce que la gauche en Europe va bien? Non. Et donc, est-ce que cet événement-ci est un coup rude? Oui, rude. Rude. Il nous appartient d'en tirer les leçons, il nous appartient de prendre les mesures, il nous appartient de restaurer la confiance ébranlée de la population. Et ce travail est gigantesque.
Vous avez le sentiment que le PS est ciblé? Vous avez parlé de charrette, on parle parfois de...
Non.
Ah, on en veut beaucoup au PS.
Est-ce que je viens de vous dire...
Que ciblé Jacques, par les médias, par exemple?
Je viens de vous dire qu'un parti de gauche a plus... d'obligations éthiques que n'importe quel autre parti. Et donc, lorsqu'un problème se pose, même si d'autres partis sont concernés, nous avons plus de responsabilités et nous devons plus être attentifs à la manière dont nous résolvons le problème.
Un dossier levé par un de nos confrères de la RTBF, François-Louis à Namur, à la recherche, tiens, y a-t-il d'autres publifins ? Il est tombé sur Aurès, dont il y a une partie Aurès Assets, qui s'occupe plus de financement, dont on retrouve 90 administrateurs, des comités de secteur, des mensualités. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à Liège que ça se passe ? Et est-ce que vous allez mettre de l'or partout ?
Ça, c'est la volonté claire de Paul Magnette en tant que ministre-président. Il a d'ailleurs dit qu'il allait s'en occuper. Et je crois que lorsqu'il dit qu'on va supprimer des dizaines, voire des centaines de postes d'administrateurs, c'est ce genre de choses-là. Pourquoi cela est-il passé ? Alors, on peut toujours essayer d'expliquer. Toute explication est inaudible pour l'instant. Donc, on peut dire n'importe quoi.
Allez-y, on ne prendra pas nécessairement pour des justifications.
Non, mais c'est
ou des approbations.
Il y avait 11 intercommunales. Ils ont voulu faire en sorte que on fasse un vrai groupe Aurès en sortant des intercommunales. Et on a laissé des structures. Et je pense que c'est ça l'erreur.
Et pourquoi est-ce qu'on laisse ces structures pour permettre aux mandataires d'accepter l'idée douloureuse de perdre un mandat?
Non, je pense pas. C'est beaucoup l'intérêt, puisqu'il n'y a pas de péréquation tarifaire. De dire est-ce que ma région va être défavorisée ou favorisée par rapport aux autres. Et c'est un peu comme un mariage à l'essai. Mais dans la chose publique. Et aucun d'entre nous quatre ne peut dire nous n'avons jamais fait d'erreur. Je pourrais reprendre la phrase de Jésus, que celui qui n'en a jamais fait jette la première pierre. Il est clair que ça n'aurait pas dû être fait. Est-ce que c'est légal? Oui. Mais je crois que demain il faut mettre catégoriquement fin, parce qu'il y a une suspicion, et c'est vous-même qui venez de le dire, que c'est pour continuer à donner de l'argent à des administrateurs aux dépens de la chose publique. Et ça ne va pas.
Et c'est possible de faire ça en 45 jours, Jean-Claude Marcourt, ce qu'on n'a pas fait finalement en plusieurs années, avec des résistances locales.
Et ce qui va se passer, ça va être extrêmement ambitieux. Celui qui a fixé le délai, c'est pas moi, mais je
reconnais... pas l'air d'y croire.
Aussi, sur l'inventaire, dans les 30 jours, j'y crois. Que le comité d'experts puisse analyser et donner un rapport avec 45 jours, ils vont travailler jour et nuit. Mais ça,
Monsieur Marcourt, pourquoi n'a-t-on pas fait ce qui avait été décidé avant ? Parce que c'est ça le problème. Ce que dit Jacques en disant, bon, maintenant on décide des choses, mais comme on dit, des catalogues, on en a vu, des mesures, on en a entendu, on les a même imprimés à chaque fois, on y a même cru parfois. Mais là, on se dit, en 2014, il y avait des mesures, Écolo a raison de dire qu'on n'a pas implémenté tout ça. Pourquoi ?
On a implémenté une partie, on n'a pas tout implémenté. Il y avait des choses qui étaient optionnelles. On ne peut pas dire que parce qu'elles étaient optionnelles, il fallait les faire automatiquement. Un exemple pour les téléspectateurs et les auditeurs. Il était prévu de pouvoir faire dans certaines structures ce qu'on appelle une tutelle de premier degré, à l'instar de ce que je fais dans l'enseignement supérieur, auprès des hautes écoles, de l'enseignement supérieur artistique ou des universités, où il y a un commissaire qui assiste en permanence, ça fait une tutelle plus proche, c'était possible, ça n'a pas été mis en place, mais la tutelle existait.
Est-ce que vous dites quelque chose que vous auriez pu faire et que vous n'avez pas fait?
Je pense très sincèrement que parfois, on a des tutelles beaucoup trop bureaucratiques, et bien des tutelles qui pointent les problèmes fondamentaux. Et parfois, on ennuie, et les communes d'ailleurs, et les provinces et les intercommunales sur des choses qui sont des vétilles. Ceci n'est pas une vétille, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors qu'il faudrait avoir une tutelle beaucoup plus claire sur des choses fondamentales. Avec, à mes yeux, une publication sur le site internet de chaque structure, d'une charte de gouvernance, de la transparence absolue des rémunérations, de la participation aux réunions.
Avec les administrateurs la lisent.
À partir du moment où les gestionnaires seront tenus, et dans certaines structures, ça a déjà été fait, et donc je tiens à dire, ne soyons pas non plus totalement négatifs. Des choses ont été faites, pas assez. Les mailles du filet étaient encore trop grosses. On réduit ici les mailles, mais beaucoup de choses ont déjà été faites, nonobstant tout ce qu'on peut penser.
Vous avez pensé tout à l'heure, vous avez eu une pensée tout à l'heure pour les travailleurs de Nétis, de Tecteo. On pourrait avoir une pensée pour les travailleurs d'Aurès, même si, quand je vous parle d'Aurès à Assets, il n'y a pas un seul emploi, il n'y a que des administrateurs. Est-ce que vous ne pourriez pas avoir une pensée également pour tous les Wallons, ceux qui aiment ce pays, cette région, et dont ils voient la valeur être dégradée de manière énorme. Si je parle en termes d'économie, de manière énorme par rapport à l'étranger.
J'avais une immense tristesse tout à l'heure. C'est évidemment pour les Wallonais et les Wallons. C'est évidemment pour les Liégeoises et les Liégeois qui se sentent tous un peu trahis parce qu'on cite Liège comme étant et certains caricaturistes croient de bon ton de nous assimiler à certaines pratiques. Bien sûr que je suis triste, bien sûr, et la tristesse elle est profonde, et les Wallonnes et les Wallons méritent beaucoup mieux.
Quand on est triste, on passe parfois facilement à la colère, et pour le moment cette colère elle est de se tourner contre votre parti. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cela ?
Eh bien, c'est pour ça que nous prenons la mesure du choc et que nous voulons absolument faire la transparence, réformer, et ce qui apparaît aujourd'hui comme une nébuleuse, parce que le régime juridique d'intercommunal ne convient plus à un groupe industriel actif dans l'économie concurrentielle comme le groupe Nethys, il faut transformer.
Donc c'est une nébuleuse, mais ce n'est pas vraiment de leur faute, c'est parce que la loi le permettait ? C'est bien malgré eux, on dirait Gérard, presque, non ?
Parfois, on ne comprend pas ce qu'on ne veut pas voir. Il y a plusieurs structures dans Nethys, mais tout ça est publié à la Banque nationale, tout est disponible. Que la stratégie ne convienne pas à certains est une chose, mais je dirais qu'aujourd'hui, ce que je pense, c'est que la structure juridique doit être transformée pour assurer et peut-être permettre aux journalistes de manière plus transparente de comprendre le modèle.
Ce sera votre conclusion sur ce domaine-là, sur ce volet-là en particulier, puisqu'on va aussi parler d'autres choses, on va aussi parler d'économie à un autre niveau, puisque vous êtes aussi ministre wallon en charge de cette compétence, Jean-Claude Marcourt.
Le Grand Oral, RTBF le soir.
L'économie wallonne menacée par le protectionnisme américain, jusqu'à 5000 emplois selon une étude, une estimation de la KUL que vous avez certainement lue en raison de droits de douane qui seraient plus élevés. Jean-Claude Marcourt, est-ce que c'est une crainte que vous partagez ?
Alors un, c'est sur la Belgique, c'est pas sur la Wallonie.
Sur la Belgique, oui, en effet, jusqu'à 5000. Hein.
Quand j'ai été aux États-Unis et j'y étais deux fois en trois mois, une fois à Memphis et une fois au Texas. Beaucoup d'Américains me disaient que Donald Trump était imprévisible. Quand on voit aujourd'hui la mesure, notamment sur le Mexique, certains disent déjà, mais c'est impraticable ce qu'il va faire. Alors, bon, lorsque un président arrive, où qu'il soit d'ailleurs, que ce soit en France ou aux États-Unis, il annonce l'exécution de son programme. Et lorsque j'étais au Texas, ce qu'ils ont tous dit, c'est « on espère qu'il n'appliquera pas son programme ». C'est de dire, parce que l'économie texane, elle fonctionne sur l'immigration, et notamment sur l'immigration mexicaine. Et donc, il y a un grand paradoxe, alors qu'ils sont globalement républicains, de dire « mais nous, on ne pense pas ». Et les républicains, d'ailleurs, historiquement, étaient plutôt libre-échangistes, et ce sont les démocrates qui étaient plutôt protectionnistes. Donc, il y a un paradoxe avec M. Trump. J'ose croire que il va prendre la mesure de l'hérésie de sa proposition. Et que ce n'est pas en faisant un mur, que ce n'est pas en ségrégant des musulmans, que ce n'est pas en disant « America's first » comme l'extrême droite française le dit à l'égard de la France, que l'on fait bouger le monde. Il est évident que les États-Unis ont besoin du monde pour fonctionner, tout comme le monde doit s'appuyer pour les États-Unis. Et oui, je suis inquiet de la politique de Trump, mais pas seulement sur cet élément-là. Je crois que sa méconnaissance des grands équilibres du monde risque de donner un poids encore supérieur à la Russie et à la Chine.
La Wallonie, dans tout ça, chiffre de la Banque nationale, puisqu'on parle un peu d'exportation, représente 18% des exportations belges. Vous confirmez ce chiffre qui date de 2015 ?
On le donne toujours. Ouais. Il y a deux éléments que l'on peut toujours citer. La Wallonie est encore aujourd'hui plus une structure de sous-traitants que de produits finis. Or, on ne comptabilise que les produits finis. Et il y a les effets de port. Mais on est, quoi qu'il arrive, on a un retard sur les exportations. Et ça, c'est évident.
Et est-ce que ça se rattrape ? Parce qu'avec toutes ces affaires publicitaires, on ne sait plus du tout. Certains disent la Wallonie remonte un peu, régresse un peu. Le taux de chômage reste extrêmement élevé, diminue un peu. Est-ce que le ministre de l'économie...
Je ne compare pas à la Flandre. Et les économistes sur l'état de la Wallonie ont indiqué que pour rattraper la Flandre, il faudrait que la Flandre arrête toute croissance et qu'on soit au double de la moyenne européenne. Donc, ce n'est pas le cas. Par contre, on améliore de manière significative, l'évolution de notre économie. Aujourd'hui, ce n'est plus la sidérurgie, ce ne sont plus les mines depuis longtemps, les grands secteurs nationaux, pour faire bref, qui sont la base économique. C'est la santé, premier secteur, pharmacie, biotech. Et François Blondel, qui est un serial entrepreneur, me disait qu'aujourd'hui, quand il va à l'étranger, la Wallonie est reconnue dans le secteur des biotech, dans le secteur de la thérapie génomique. Et donc, nous évoluons, pas assez vite, mais depuis 25 mois, tous les mois, le chômage diminue en Wallonie. Et ça, c'est un élément important. Et ça a commencé avant la mise en place du gouvernement fédéral.
C'est la politique des pôles de compétitivité, Jean-Claude Marcoux.
Entre autres, ça fait
10 ans,
justement. Un enthousiasme, quand vous allez au Venture Lab, et vous ne savez probablement pas ce que c'est, mais c'est une structure mise en place par le professeur Surlémont, qui est loin d'être proche du Parti Socialiste.
C'est liégeois.
Oui, il est professeur à HEC, à Haute École de Gestion de l'Université de Liège. Il a lancé un incubateur pour les étudiants entrepreneurs et les jeunes diplômés entrepreneurs. Il pensait qu'il aurait 25 dossiers par an. En 18 mois, c'est plus de 200. Cela montre qu'il y a quelque chose qui bouge en Wallonie et ce qu'on a fait là, on va le reporter dans d'autres sous-régions de la Wallonie et on le voit bien. Je vais prendre un festival extraordinaire dans le numérique, c'est le Kick Festival à Namur, qui aujourd'hui est devenu un festival mondialement reconnu. Et ça, je crois que ça te montre aussi que la Wallonie change dans ses aspects, pas assez vite. Et moi, je suis inquiet, c'est la disparition de la classe moyenne. Ça, je crois que vraiment, il y a une difficulté. Notre société est une société qui se fracture avec ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Et de plus en plus de difficultés de cette évolution, ce qu'on a vu à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, faire progresser de génération en génération, c'est un immense problème. Le problème de la déshérence sociale, la précarité sociale qui augmente, c'est évidemment ça que nous voulons maintenant en faire. C'est pour ça qu'il faut aller vite pour tourner la page du problème de gouvernance, qui est un problème essentiel, dont je mesure particulièrement l'importance, mais pour répondre aux problèmes concrets des gens.
Je vais profiter de ce qu'on parle de l'économie wallonne et des exportations wallonnes pour joindre à une petite question qui me restait sur le tour précédent. C'est que, évidemment, dans cette discussion sur Nethys, etc., il y a cette idée qu'il y a une confiscation, un petit peu peut-être par un groupe d'hommes politiques liégeois, de la croissance, des initiatives pour les conserver à Liège. Est-ce que vous vous dites qu'il y a un problème au PS liégeois? Est-ce qu'il faut le changer pour changer cette image qui est importante parce que les autres pôles de croissance ailleurs en Wallonie pourraient se sentir orphelins ou pourraient craindre ça au vu de ce qui est exposé?
Il nous reste 3 minutes.
Pas la question, mais très
est-ce
simplement...
Est-ce qu'il y a un problème PS liégeois qui monopoliserait une forme de pouvoir au détriment des autres pans du Parti Socialiste?
Très simplement, je soutiens depuis maintenant une dizaine d'années... Le parc scientifique de Gosselies, qui est devenu une référence dans le domaine de la santé. On dynamise partout la Wallonie. Celui qui croit que la Wallonie pourra se faire dans une sous-région aux dépens d'une autre se trompe absolument. Et lorsque j'ai fait venir Johnson & Johnson à Courcelles, c'était pour moi une réussite exceptionnelle parce que c'est aujourd'hui plus de 500 emplois. Et la réussite, c'est qu'ils ont ouvert un deuxième centre dans la région de la Louvière. Et ça démontre bien qu'on doit construire la Wallonie. L'aéroport de Charleroi est un véritable succès. Nous devons aujourd'hui faire la mutation de l'aéroport de Liège avec le changement du principal opérateur. Mais s'il n'y a pas toutes les sous-régions, et moi je suis contre l'idée qu'il y a une Wallonie qui gagne. La Wallonie, elle doit gagner collectivement parce que c'est indispensable pour notre cohésion sociale.
Alors, puisqu'on parle du Parti Socialiste, un mot sur le duel de la primaire de la gauche en France. Vous êtes plutôt Benoît Hamon ou Manuel Valls?
Amicalement, j'ai reçu Benoît Hamon quand il était ministre de l'économie sociale et on a passé toute une journée ensemble. Et fraternellement, je soutiens Benoît Hamon.
Et Macron?
Et Macron, oui.
Vous le mettez où?
J'aime les gens de gauche.
Mélenchon, alors?
Il n'y a pas de gauche, alors?
Je pense que il n'est pas la gauche. Si qui suis-je pour dire que la gauche c'est un tel ou un tel? Mais en tout cas, la manière dont il fait de la politique n'est pas et son programme ne correspond pas à ce que moi je pense devoir faire.
TF1, puisqu'on parle des Français, TF1 fait mine de vouloir s'installer en Belgique et de faire de la publicité dédiée à la Belgique. Vous les avez vus cette semaine?
Je les ai vus cette semaine et comme vous le savez, la directive européenne de Télévision sans frontières m'empêche tout contrôle. C'était déjà le cas avec vos amis de la maison d'en face de RTL TVI qui ont une licence luxembourgeoise, même si ils sont, et c'est la grande différence avec TF1, c'est qu'ici il y a des centaines d'emplois à quelques kilomètres de votre maison, alors que là, tout viendrait de Paris. Il y a des engagements de dire que s'ils viennent, ils feront des choses dans notre pays.
Vous ne ferez rien pour les empêcher de venir parce que vous n'en avez
pas le droit. Je leur ai dit que leur je n'ai pas la compétence de les empêcher de venir. Seul le CSA français pourrait y mettre des restrictions. Ce que je dis très simplement, c'est que ma grande crainte, c'est que ça ne déstabilise l'ensemble du paysage audiovisuel, mais aussi de la presse écrite, puisque une partie des bénéfices de RTL TVI retourne vers les éditeurs de presse.
Petite question média, tant qu'on y est aussi, est-ce que Netis doit être actionnaire d'un journal du sud de la France ?
C'est une bonne question. C'est une bonne question.
Mais je vous demande la réponse.
Tout comme Rossel, est-ce que la stratégie de Rossel, qui est la même que la stratégie de Netis, qui est la même que la stratégie des journaux flamands qui s'étendent aux Pays-Bas?
Je ne pose pas la question sur mon groupe, si M. Marchand était là.
Je vous dis simplement que les stratégies des groupes aujourd'hui sont
la question
de comment on diminue le coût de transformation numérique, et en tout cas sur la presse. Il y a des années que je propose qu'il y ait une vraie concertation entre les éditeurs de presse sur l'imprimerie, la transformation numérique. Je constate que la concurrence est supérieure à la volonté de collaboration.
Et nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci Jean-Claude Marcourt d'avoir été l'invité de ce grand oral. Je sais que vous voudriez 20 minutes de plus, mais on peut réinviter Monsieur Marcourt une autre fois. Merci aussi donc à vous Béatrice Delvaux et à Jean-Pierre Jacquemin, à toute l'équipe technique et éditoriale qui permet à cette émission d'être disponible en radio, en télévision et sur notre plateforme rtbf.be/ovio et sur le site du journal Le Soir. Dans un instant, les infos de 14h, puis Marc Danval et La Troisième Oreille. Mais avant cela, votre choix musical, Jean-Claude Marcourt, c'est Leonard Cohen avec le titre You Want It Darker. Pourquoi ?
Oh, parce que c'est un immense talent qui s'en est allé et que la chanson est assez dans l'air du temps.
Podcast La Première.